L'on dispute, le parquet de Créteil est saisi. L'indignation ce soir de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Sur Twitter, elle condamne les paroles d'une chanson du rappeur Nick Kandrade qui, selon elle, se rend coupable à la haine. Elle estime que la liberté d'expression ne permet pas tout. Le chanteur condamné le 19 mars à une amende de 5 000 € avec sursis pour son clip ultra-violent « Pendez les Blancs » vient de sortir un nouvel album. Séquence émotion sur la croisette pour Alain Delon. Il a reçu tout à l'heure au Festival de Cannes une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière. C'est sa fille Anouchka qui lui a remis le trophée. C'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant, a déclaré l'acteur de 83 ans. Il a joué dans près de 90 films, entre autres Le Guépard, Le Samouraï, La Tulipe Noire. On y reviendra dans le journal de 23h. Le malheureux absent de la soirée à Cannes, c'est Diego Maradona, blessé à l'épaule. Il n'a pas pu faire sa montée des marches. Ses médecins lui ont interdit de prendre l'avion. Il ne peut donc pas voir, en tout cas pas tout de suite, le film qui lui est consacré et qui est diffusé ce soir hors compétition. Un film du Britannique Asif Kapadia qui retrace ses années passées à Naples.
Écoutez le cinéma.
Écoutez sur franceinter.fr. In this
peaceful town. Et vivez le Festival de Cannes avec France Inter
et le Centre National du Cinéma. Something. Retrouvez toute l'actualité du festival.
Les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC.
Les masterclass du festival avec John Carpenter,
Martin Scorsese,
Sylvester Stallone,
Alain Delon,
John Travolta et bien d'autres.
Ainsi que les émissions de France Inter en direct de la Croisette.
Et toutes les interviews en intégralité
de celles et ceux qui font le festival cette année.
What? I'm thinking zombies.
Écoutez le cinéma.
Une série de podcasts exceptionnels de France Inter
avec le Centre National du Cinéma.
À retrouver dès maintenant sur franceinter.fr.
Il est 22h, bientôt 4, et on retrouve Édouard Baird pour Lumière dans la nuit.
En effet, oui. Oui.
Au Bel Air.
Oui, tout à fait, en effet.
Tout à fait.
Il s'agit de ça, oui, en effet. Dites-moi, Marie-Amel Kurdi.
Oui.
Dans un premier temps, peut-être bonsoir, très
bonsoir,
simplement.
Oui,
je crois qu'il faut pas, sans exagérer, je
oui,
crois.
Oui, bien sûr.
Sans non plus prétendre être autre chose que ce qu'on est, juste bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que Diego Maradona ne pouvait pas venir à Cannes en raison d'une douleur à l'épaule. Mais il ne s'agit pas d'aller jouer au football à Cannes, mais simplement de...
De voyager.
Oui, je crois que vous êtes vous laissé avoir par l'information.
Oh là là,
vous acceptez
là
cette nouvelle comme si... Moi, je ne marche pas.
Ah. Non.
Merci. Nous, on va ouvrir par l'Eurovision. On vient de changer tout notre journal. Gros béco, à tout à l'heure, 23h.
À tout à l'heure. Merci.
Allô.
Lumière dans la nuit.
Lumière.
Édouard Baird.
Lumière.
France Inter.
Lumière.
Alors, d'accord, Cannes, ok, nana, politique européenne, c'est d'accord. Tant que ça, on n'ouvre pas par ça. Météo, d'accord, la guerre, là, n'en ouvre pas par ça. Les inondations, n'en ouvre pas par ça. Ouvrons par l'Eurovision. L'Eurovision. Chaque année, le bonheur est là, à portée de la main. Une voix, une tenue de patinage artistique et le talent très alcoolisé de Stéphane Baird qui, une fois par an, s'autorise tous les dérapages. Stéphane, je vous ai prévenu qu'on ouvrait par vous il y a combien de temps, à peu près?
Il y a... 30, à peu près.
À peu près 1 minute 30, j'avoue, j'ai réussi à avoir votre portable grâce à un service de presse très, très fluide. Je vous ai trouvé dans l'annuaire à Berne. C'est très gentil de votre part d'être dans les pages jaunes.
Non, mais écoutez, c'est la moindre des choses, en tout cas, de vous répondre. Surtout que j'ai pris l'avion, là, je débarque de l'aéroport, j'arrive de Tel Aviv, où, comme vous le savez, j'ai donc participé à la présentation de l'Eurovision 2019. Alors, j'ai plus beaucoup de voix parce que j'ai beaucoup chanté.
Vous avez tout donné, évidemment. Vous avez tout donné, Stéphane Baird?
J'ai tout donné, oui, absolument.
Je sais que vous en avez encore sous le capot, quand même. Oui?
Oui, non, le problème, c'est qu'on donne beaucoup et on reçoit peu.
On reçoit peu.
Oui, peu.
Les gens vous aiment, mais jamais assez, quoi, c'est ça.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut être honnête, notre zone d'influence s'est quand même largement diminuée. C'était, je ne dis pas que c'était mieux avant.
Ben, il y a 5-6 ans, vous étiez, on disait Stéphane Baird, les portes s'ouvraient, les tables se réservaient, les chambres d'hôtel étaient à moins 20%. Et là, on dit Stéphane Baird, Édouard Baird, les gens s'en foutent.
Ah, complètement. Ouais, ouais. Ah, mais complètement. Ouais, ouais. Et surtout, non, moi encore, ça va, mais...
Mais moi, oui, non, moi. Oui, oui, on passera là-dessus.
Non, je me fais passer par pour vous et là, j'obtiens plus.
Oui, ah bon, vous êtes gentil. Dites-moi, alors, c'est un moment d'abandon complet, ce commentaire de l'Eurovision. Les micros sont fermés dans votre esprit, c'est pour ça que Vous vous permettez tout.
Non, 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 on se permet pas grand-chose. Écoutez, on est très correct, conviviaux, on essaye de l'être, sympathique aussi. En même temps, on peut pas s'interdire, quand on voit certaines tenues, de trouver que, au fond, il y a des fashion faux pas qu'il ne faudrait pas faire.
C'est vrai, grâce à Dédé Manoukian, hein, ça peut partir très loin. Oui. Dites-moi,
là, on peut pas déraper avec Dédé Manoukian parce qu'il connaît vraiment la musique. Hein.
Il y a des pays que vous n'aimez pas personnellement en Europe.
Non. Au fond, j'aime. Bon, c'est vrai, j'ai une passion pour le président biélorusse.
Ah parce oui.
Il donne des bourses à cette jeune candidate, la Benjamin Zena. Et c'est un grand démocrate. Le connaissez-vous, monsieur?
Pas intimement, non. Comment vous l'appelez?
Non. Loukachenko.
Ah oui, je vois très bien.
Loukachenko, oui, c'est un grand débris.
J'ai dîné chez les Depardieu avec lui. Non, je dis n'importe quoi. D'accord. Donc vous êtes spécialisé dans les dictatures ou
Écoutez, pas spécialisé, mais dans les moqueries de dictateurs.
Il y a quand même des royaumes. Il paraît que vous n'étiez. Vous en êtes où avec les Pays-Bas, Stéphane Bern?
Eh bien, écoutez, je suis au mieux, justement. J'ai failli envoyer un télégramme, mais j'attendais de rentrer. Un télégramme de félicitations au roi Willem Alexander et à la reine Maxima. Pour les prévenir que j'arrivais l'année prochaine, alors ça sera Amsterdam, Rotterdam ou Maastricht, on verra.
Oui, parce que la Hollande a gagné cette année, sans doute grâce au petit coup de pouce que vous
avec
avez donné.
Duncan, Laurent, c'est pas grâce à moi, mais il a gagné avec une très jolie chanson. On se demande pourquoi il faut à ce point faire des grands tableaux super scéniques, etc., alors qu'il suffit d'être derrière un piano avec une jolie chanson, et ça marche très bien.
Et pourquoi les Français sont 14e cette année? Quel est ce grand...
On nous aime moins, je sais pas. Pourtant, Bilal Hassani a bien chanté.
Est-ce que ça dépasse le chanteur? C'est vraiment un sentiment anti-français qui gagne l'Europe aujourd'hui?
Je sais pas, je me demande. Vous savez, par exemple, je m'amusais à faire les pronostics, je disais, la Grèce va voter pour Chypre, ça a pas loupé. Chypre va voter pour la Grèce, ça a pas loupé. L'Islande vote pour le Danemark pour l'Islande. Enfin, c'est les zones d'influence, vous voyez, nous...
Et quand vous écrivez un petit télégramme au roi et à la reine des Pays-Bas, ils reconnaissent « Oh, dangereux, c'est Stéphane Bern !» Comment ça se passe? À votre avis, ils vous connaissent ou pas?
J'envoie une photo, oui, parce que j'ai des photos avec tous, alors je remets une petite photo pour qu'ils se souviennent.
Oui, c'est ça. Mais vous envoyez des fleurs, vous connaissez des dates d'anniversaire, il y a des petits cadeaux, comment ça se passe?
Ah oui, oui, on est nombreux à envoyer des tulipes le jour de l'anniversaire du roi, puisque c'est devenu la fête nationale le jour de son anniversaire. Donc on est très nombreux à lui offrir des tulipes. Donc des fleurs, envoyer des fleurs aux Pays-Bas, vous voyez, c'est comme envoyer une caisse de Bordeaux à Bordeaux.
Mais vous avez un budget fleurs-royauté, par exemple, dans votre petit calepin, Stéphane Bernier. Budget fleurs-royauté, chaque année, il y a un petit budget, tulipes pour les Pays-Bas, des roses pour machin, ça doit quand même, non?
Il y a un budget.
Combien il y a peut-être couronnés encore en exercice en Europe?
Écoutez, il y a encore 10 monarchies en Europe.
Oh la vache, au prix de la botte de tulipes!
Ah oui, les tulipes, c'est pour les Pays-Bas, vous voyez, c'est la fleur.
Vous adaptez.
Sinon, on envoie autre chose. Certains adorent nos chocolats, parce qu'on a de très bons chocolatiers en France. Bon. Ça voyage pas bien. Non, mais enfin, on parlera un jour du savoir-vivre, si vous voulez, mon cher Edouard. Mais
je suis content de ne pas vous avoir prévenu, parce que vous avez cette voix un peu fatiguée qui est très agréable. Il n'y a aucune efficacité. C'est fatigant, l'efficacité dans les médias.
On n'est pas dans la performance.
Oh là là. On espère qu'il n'y a pas d'auditeurs, c'est vous dire, quoi. C'est...
Non, mais s'ils sont là, écoutez,
bien sûr, ils sont les bienvenus, oui.
Ils étaient très beaux à Tel Aviv, je vous assure, ils étaient très très beaux. J'étais avec Jean-Paul Gaultier dans l'avion, était très content de la robe qu'il avait fait pour Madonna, moins de sa prestation, mais ça le regarde de moins, parce qu'il peut pas chanter à sa place, et puis elle lève moins facilement la Jean-Paul Gaultier.
Mais Stéphane, merci, grâce à vous, on a été un peu dans le secret des grands.
Oui.
Merci infiniment pour ce moment. Et là, vous êtes chez vous?
Que vous faites continuer. Hein,
Pas, ça dépendra. Vous êtes chez vous, là?
Oui, je viens d'arriver, je suis sur ma valise.
Dans quelle pièce vous êtes?
Je suis dans une petite entrée.
Il y a une entrée?
Donc je suis dans la petite entrée.
Il y a des lampes à abat-jour ou il y a un plafonnier?
Non, il y a un plafonnier.
Ah oui, faites attention pour la mine, hein, le plafonnier, moi je déconseille. Hein.
Oui, je suis assis sur ma valise, c'est-à-dire que vous me prenez au déboté.
Merci infiniment, vous êtes merveilleux.
Bonne soirée. À bientôt, cher Edouard.
Dans l'intimité des grands. Aujourd'hui, Stéphane Bern, dans son entrée, le cul sur une valise, les yeux sur un plafonnier, entre deux avions, trois Eurovisions, a eu la gentillesse de nous recevoir. Si vous aussi, vous voulez être dans l'intimité des grands, il vous en coûtera une botte de tulipe par royauté. Qui veut ça? C'est le générique ou pas, où on l'a eu déjà? J'ai pas entendu. Hein? Remets le générique, s'il te plaît, Jérôme, parce que j'étais pas prêt. À tout de suite pour l'émission Lumière dans la nuit. Merci, Jérôme, le réalisateur. Superbe homme. Ah non, non, le générique. Quoi? C'est pas le générique, mais une chanson. Ah, voilà.
Allô? 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 C'est qui?
Lumière dans la nuit.
Lumière!
Édouard Baer.
Lumière.
France Inter.
Lumière.
Énorme plateau ce soir ici en direct du Bel Air. Vous pouvez venir d'ailleurs si vous nous entendez. J'aime bien l'idée que des gens surviennent à l'improviste. C'est à la maison de la radio. Ce soir nous sommes avec Patrick Bouchain qui est revenu. Patrick, merci d'être venu. Patrick Bouchain, vous êtes quoi, architecte, urbaniste, comment vous...
On m'appelle touche à tout.
Touche à tout. On
voilà,
m'appelle touche à
tout.
Alors c'était gentil parce que j'étais étonné. Après, moi j'ai toujours l'impression qu'on reçoit mal les gens, qu'on parle pas des choses bien. Vous avez dit si c'est ici que je veux venir reparler du chantier de Notre-Dame.
Ben oui, parce que je pense que c'est un sujet. Enfin, tout le monde en parle et je pense qu'on est parti sur la mauvaise voie. Et comme je pense que cette soirée ou la soirée que j'ai passée l'autre jour avec vous, elle est libre. Je trouve que c'est un sujet qui concerne tout le monde et on pourrait l'aborder avec joie. Ce qui est bizarre, c'est de dire qu'après cet incendie, on pourrait réintroduire la fête, la joie et le travail. Et donc on ne parle pas de ça. On parle d'argent, on parle de procédures.
Les anciens, les modernes, la droite, la gauche.
On dit est-ce que c'est un bâtiment cultuel, est-ce que c'est un bâtiment qui doit rester dans son temps, ou est-ce qu'on peut réellement l'inscrire dans l'histoire et tout. Et moi, je n'aime pas du tout ce genre de choses. Quoi. Donc je pense qu'on pourrait en parler sur le trottoir. On pourrait même s'installer.
Avec plaisir.
On pourrait s'installer d'ailleurs devant Notre-Dame. On pourrait faire une sorte de grande fête, vous voyez, où on installerait des tentes, les gens y viendraient, et on pourrait les accueillir, on pourrait boire. On pourrait passer la nuit, on pourrait même y dormir. Ce qui serait bien, c'est qu'on vienne peut-être comme avant les festivals ou peut-être comme les grandes marches. Voilà, on pourrait venir dormir. Et peut-être que les touristes, quand on dit voilà, plus personne ne revient ou c'est dramatique, c'est le bâtiment le plus visité, bah peut-être qu'on pourrait faire le plus grand campement autour de Notre-Dame pour venir assister à la reconstruction de la toiture de Notre-Dame.
Démuséifier les choses.
Mais oui, parce que, on a eu Stéphane Bern tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour un patrimoine arrêté. Vous voyez, je ne suis pas pour un
mouvement. Oui.
Mais moi, je suis pour même la ruine. La ruine, pour moi, c'est peut-être quelque chose qui évoque le plus l'histoire de l'architecture. Et donc là, on pourrait peut-être vivre un moment de ruine ou un moment d'effondrement pour voir comment on reconstruit les choses.
Vous trouvez qu'il faut laisser les ruines en état?
Moi, je pense que l'acropole
reconstruite,
vous voyez, avec des mecs en tunique, c'est pas beau, quoi. Je veux dire,
vous n'aimez pas le kitsch, quoi. Oui.
Non, mais peut-être que l'acropole, quand il a explosé, parce qu'il y a peu de temps, quand même, il y a quelques siècles, il était encore en bon état, son explosion a peut-être assuré la diffusion, voyez, de la pensée athénienne.
Et donc, l'imagination aussi, les ruines permettent l'imagination.
Totalement. Oui. Et puis peut-être même qu'on ait des morceaux à Londres, ou des morceaux à Berlin et des morceaux à Paris, c'est peut-être une façon de diffuser.
Alors nous-mêmes, nous sommes un peu en ruine, le corps humain, vous êtes contre l'homme augmenté, vous trouvez que laisser le corps partir en ruine aussi.
Et pour préparer cette émission, j'ai lu des choses et je voulais savoir, oui, parce que je me suis trompé. J'ai dit que les cœurs du roi étaient enterrés à la Sainte-Chapelle et en fin de compte, le cœur du roi n'était pas enterré à la Sainte-Chapelle. Il était donc à Saint-Paul-Saint-Louis, donc rue du Faubourg-Saint-Antoine, et dans d'autres églises. Parce que les rois, en fin de compte, on les prenait en morceaux. On mettait le corps à Saint-Denis, après on faisait bouillir le corps pour n'avoir que les os, et puis après on mettait le cœur donc à Saint-Paul, et puis on ramenait des fois des objets fétiches ailleurs. Et j'ai découvert que le cœur, en séchant, il produit une matière marron, et que souvent on vole dans les reliquaires les cœurs, et on les donne aux peintres pour faire des lavis, vous voyez, pour faire en fait
c'est extraordinaire, un lavis marron. Patrick Bouchain, à chaque fois. On est que dans la bande-annonce de l'émission, là, pour le moment. C'est déjà extraordinaire. On est parti de la reconstruction, quand même, de Notre-Dame. On s'est arrêté devant dans des tentes. Ensuite, je vous ai proposé, on a un petit peu, vous avez parlé des ruines. Et là, on est sur le cœur des rois.
Et donc, des tableaux sont peints avec le cœur d'un roi qui a séché, dans un reliquaire qui a été volé. Mais comme, en mettant Rabelais était enterré au même endroit, où Julliard de Montsart enterré au même endroit, on ne sait pas si on a peint un tableau avec le cœur.
Avec le cœur de qui?
Oui, le cœur de qui?
Le cœur.
Moi, je pense que
c'est
un peu ça. Voilà, il faudrait qu'on inscrive Notre-Dame dans la vie parisienne et dans une sorte de moment de se rencontrer. Parce que qu'est-ce qu'on retient?
Attendez, c'est que la bande annonce, Patrick. Il faut que je présente les autres invités. On va dire après. Arrête. Apprenez, c'est la bande annonce. On continue, Patrick Bouchain, dans une bande annonce, a dit plus sur le fond des choses et sur la vie que moi en 15 émissions. Vraiment, je suis humilié. Patrick Bouchain, vous n'êtes pas venu seul, il y a Arthur Lockman qui est avec vous.
Bonsoir.
Bon, on m'a dit Loch ou Lochman ?
Lochman.
Merci infiniment d'avoir remarqué que je respectais votre nom. Vous êtes à la fois philosophe et charpentier. Vous avez ensemble signé avec Patrick Bouchain une tribune qui s'appelle Le chantier est une fête.
Oui, c'est cette idée que le chantier est l'occasion d'exprimer, de créer, de donner à voir sa compétence, aussi bien pour l'architecte que pour les charpentiers et les tailleurs de pierre, qui laissent toujours la marque de leur passage.
Un temps pour pleurer, puis un temps pour...
Dans les gargouilles, oui. Dans les sculptures qu'on trouve ici et là, dérobées à l'œil, qui font pas partie de la splendeur de l'édifice dans sa totalité, mais qui en font les petites aspérités, des agrégats de narration de l'histoire du chantier, et qui en font tout le sublime.
Alors, c'est à votre gauche, Tito qui est là, qui était aussi à Cannes avec moi, avec sa guitare, ce matin. Et tu as fait une battle, Tito, avec deux musiciens flamenco. Ah, et ouais. Au moment de boire des coups avec eux, tu as disparu dans les rues de Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, ben rien. On est parti boire des coups.
Voilà. Et puis Tito, qui était très ami Lilda Fernandez, qui est mort quand ?
Ce matin.
On t'embrasse, Tito. On va écouter une chanson d'Hilda juste après. Alors, on est avec beaucoup d'aventuriers aussi. Mathieu Tordeur, vous êtes explorateur. Vous faites partie de la légendaire Société des explorateurs français.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'on a. Sylvain Tesson en fait partie aussi.
Oui, aussi, oui.
Ça doit être extraordinaire, ces gars-là, quand ils se retrouvent entre deux bateaux, deux avions, deux traversées du monde à pied, des vieilles valoches.
Le problème, c'est qu'on se retrouve assez rarement, parce que, oui, effectivement, notre terrain de jeu, c'est un petit peu les quatre coins du monde, donc on a du mal à se retrouver. Mais effectivement, il y a des gens comme Sylvain Tesson, Thomas Pesquet, Nicolas Hulot, Antoine de Maximi.
Ça doit être extraordinaire. Enfin, de pas se voir. Quand vous voyez pas, ça doit être extraordinaire. Et puis, à un moment, on disait que le monde entier, les marins se croisaient sur la Canebière, mais c'était avant l'aviation, ça, évidemment.
Ça, probablement. Mais ça, Guirec est un vrai marin.
À votre gauche, Guirec Soudé, qui est là, Guirec, qui sillonne le monde à bord de l'Ivenec, qui est à la fois un bateau et une île.
C'est ça, exactement. Et je suis accompagné aussi de Monique.
Alors, vous êtes venu avec votre poule Monique, qui vous accompagne partout. Au début, j'avais invité Monique seule, et puis elle a dit, je veux venir. On va parler de la solitude, on va parler du rapport homme-animal, du bateau, on va parler de ce que vous voulez, surtout. Je fais des fausses bonnes annonces. Mon ami Pat Lera, qui est là, qui n'a pas de micro. Alani, qui est là. Alani, you're here, but what about your French these days?
Quoi?
Alani va chanter deux fois le chant. Qu'est-ce que vous avez au pied? You have a foot problem?
I have a fracture de talon. My toe is fractured.
Voilà, cette information, vous pouvez la répandre autour de vous. Le talon d'Alani est un peu fracturé. Tout de suite des commentaires en direct. J'ai oublié des invités, mais c'est pour vous mettre en haleine. Je vais noter ce verbe que j'emploie rarement. À tout de suite. Salut, Nilda Fernandez.
Une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran. Des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Jusqu'au dernier détail. Ses yeux derrière un éventail. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon bronze quand elle n'est pas avec moi. C'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Toda una tarde en el retiro, echando piedras a un farol. Els meus amors se han derretido con tanta luz y tanta. ses yeux derrière l'éventail, une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas, se van a reír de ti.
La Fernandez. Là, on est en direct, donc au Bel Air, il y a une jeune femme face à moi qui s'évente avec la main. Ça ne marche pas de passer très vite son visage devant sa main. C'est pas qui vous indique ça. Jacques Souvent a quitté cet établissement il y a une demi-heure. Où est-il dans la nuit parisienne?
Bien, écoutez, j'ai affronté.
Faites une petite musique d'abord avec la bouche. Faites une petite musique avant. Voilà, c'est bon.
C'est pas mal.
Bah oui, c'est bien.
Des rires et des chants.
Bah oui, ça rappelle l'enfance un peu.
Bah oui, je suis un grand enfant.
Ouais, on l'est tous. Hein.
Très bonne bande-annonce, Jacques, racontez-nous.
J'ai dérangé Nicolas qui était en train de manger. Je suis à la terrasse d'un café qui s'appelle l'Éclectique, je crois. Et vous étiez en train de manger quoi là, je vous ai dérangé?
Bah écoutez, c'est un bœuf préparé à la thaïlandaise un peu, avec une purée.
Un bœuf de viande?
Huile d'olive. Oui, un petit peu de viande, ouais, effectivement.
Beaucoup de gens s'opposent maintenant à la consommation de viande, préfèrent vivre avec des bœufs que les manger. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire les deux, sympathiser avec un animal et le manger? On est là avec un grand navigateur, par exemple, qui a sympathisé avec sa poule Monique, Guirec Soudé. Je ne sais pas si lui mange... Vous mangez du poulet ou pas, pardon,
Non, pas de poulet. Non, voilà. Non. Enfin, j'évite, vraiment, je suis invité. Voilà.
Et vous, monsieur, poulet, vous mangez du bœuf? Est-ce que vous pouvez sympathiser quand même avec des bœufs dans la vraie vie vivante?
Mais je sympathise avec des bœufs qui m'entourent en permanence.
Vous savez, il y a la chanson de Souchon, les vaches qu'on aime, on les mange quand même. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais tout à fait. Nous avons tous un lointain cousin agriculteur ou éleveur et tout, etc. Puisque nous sommes un pays paysan. Et que effectivement, j'ai connu, moi, dans mon enfance, le grand-père qui tuait l'animal avec qui, à qui on avait porté une affection toute particulière pendant toute la durée de sa vie.
On ne devrait manger que des animaux qu'on a connus de notre vivant, évidemment. Alors oui, là, vous étiez en terrasse.
Même. Oui,
leur prénom, vous étiez en terrasse. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait que Jack a eu envie d'aller vers vous à ce moment-là, dans cette nuit, à 22h24?
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, vous savez. Il y a des choses qui passent par le regard.
Les plus belles, oui.
Par la chimie. Mais non, je crois que j'étais seul en terrasse et que du coup, il n'avait que guère le choix, en définitive.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas malentendu sur les gens qui dînent seuls? On croit qu'ils veulent de la compagnie, alors que pas du tout.
Alors ça dépend. En ce qui me concerne, j'ai accepté celle de Jacques, mais effectivement, j'étais plutôt dans un moment contemplatif, voyez-vous.
Ce que vous entendez, pardon, monsieur, c'est donc la poule de Guirec Soudé, c'est Monique qu'on entend là. Allez-y.
D'accord.
On l'entend plus. Donc vous étiez contemplatif, vous avez dit ce soir, j'ai envie d'être un peu seul, j'ai envie de réfléchir, vous n'avez pas sorti un portable, vous n'avez pas fait des jeux, vous n'avez pas regardé des Instagram, ça. Vous étiez dans la mastication, dans la pensée.
Exactement, dans la maïotique masticatoire. Ouf. Mais cela dit...
Alors vous voyez, dès qu'on dit ces mots-là, les flics débarquent, vous avez vu. On dit maïotique masticatoire,
bah là,
ça réagit très
qui
très
vient
vite.
Me chercher.
Il y avait quand même ce petit cigare sous plastique qui est quand même énorme, ce cigare là, c'était pour tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Ben, j'en ai déjà fumé un, en définitive, j'avoue. Hein, je fume, je mange du bœuf. Sachez quand même, monsieur Baird, que je ne mange que de la viande que très rarement.
Ah non, mais j'ai aucun problème avec. J'ai aucun problème avec.
Non, mais je vous le dis.
Non, mais c'est pas du tout.
Non pas pour me justifier, mais pour
comprendre. Vous savez, j'attrape un petit fil, je le tire, cher monsieur, j'ai rien du tout contre ça. Dites-moi, est-ce que.
Je vous en prie.
Si vous étiez en compagnie, on vous empêcherait de manger un cigare, c'est aussi ça? C'est aussi ça qui vous isole ce soir, cette envie d'avoir cette haleine à vous, personnelle.
Exactement. Je vais vous dire, j'avais pas de programme nocturne, donc effectivement, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Si vous voyez ce que
on
je
On peut pas
dire.
Se faire plaisir en compagnie?
Mais si, mais alors, soit bien avant le cigare, soit après un brossage de dents de au moins 3 minutes.
Rappelez-moi votre prénom.
Voyez-vous, je m'appelle Nicolas.
Nicolas,
oui,
est-ce qu'il y a des gens à la maison ce soir?
Eh bien, écoutez, non, puisque je suis à l'extérieur.
Mais est-ce que des gens vous attendent? Est-ce que quand vous allez rentrer, quelqu'un vous attend chez vous, Nicolas?
Écoutez, malheureusement, non, et heureusement, non.
C'est ça.
Car parfois, mieux vaut ne pas décevoir que d'être attendu.
C'est ce fameux sentiment qui emprisonne et vous libère, et vous y avez échappé pour le moment.
Oui, mais pas pour longtemps.
Vous sentez que la corde au cou vous guette, les attache?
On est toujours attaché, mais l'aliénation qu'on choisit n'en est plus une.
Et pour le moment, vous arrivez quoi? C'est votre solitude à vous? C'est un choix?
La solitude, c'est un grand mot. Moi, je dirais plutôt la beauté du moment qu'on se consacre à soi-même pour essayer d'être mieux avec les autres après.
Cher Nicolas, ce moment vient d'être gâché par cette émission, puisque vous étiez et avec Jacques, avec moi, avec tous les utères. Merci, merci.
Avec grand plaisir.
On vous laisse dîner.
Merci à vous.
Le moment qui vient de passer vous est proposé par l'Association française des psychanalystes libéraux. Si toi aussi tu souhaites adhérer à notre mouvement. Voilà, alors qu'est-ce que je fais après ces trucs-là? Je ne sais jamais. En radio, ce qui serait bien, c'est de passer un truc musical. Ou, est-ce que Alani, what do you think about singing now? What about that? Excuse-moi, pendant que je parle en anglais avec la grande Alani, faites des choses chez vous. On ne peut pas écouter une émission pendant deux heures avec la même intensité. Juste après, on retrouvera Patrick Bouchain et Arthur Lockman pour parler du chantier de Notre-Dame. Mais là, dans le... Comment s'appelle ce café déjà?
Le Bel Air.
Le Bel Air. Dans le Bel Air. À l'époque où j'avais de la mémoire. Eh bien, Alani va se lever. Alors, c'est un extrait, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me dit qu'à Cannes, le nouvel album n'est pas sorti exactement. What about Aka? Is it, can we find your album now or not already? Hein? Allumez le micro. Alani est connu pour d'abord sur scène. Il faut voir Alani sur scène. You're amazing on stage. I've seen you on stage. Mon anglais est disponible chez tous les gens qui ne veulent pas apprendre l'anglais. And you always have crazy microphone. Alani a toujours des micros géniaux.
Yes, this is another crazy microphone.
Un autre microphone fou. What is it? Qu'est-ce que c'est ce fétichisme avec les microphones? What do you have with that? Is it? It's all visual or it's all about sound?
It's about sound.
C'est juste sur le son. I thought it was about being a diva of the 30s or the 50s.
In your mind, no.
Dans mon esprit, c'est
sound is more important than the aesthetic, the insight, the practicality.
Oui, mais votre façon d'être sur scène est très diva.
But me,
yeah, when you stage with your mic, with the way you behave.
Okay.
Mais c'est un compliment.
Oh, okay. I don't feel like a diva.
Non, mais...
Not right now, with one shoe.
Ah oui, parce que elle ne se sent pas comme une diva parce que l'un des pieds. On a parlé fracture tout à l'heure. Beaucoup de chirurgiens commencent à appeler
France Inter. With hotel socks.
Ah oui, et puis vous êtes très souple. Je ne sais pas faire ça. Alors, vos musiciens, can we meet your musician?
Yes.
Messieurs, vous êtes français, vous êtes vache, vous nous laissez galérer et tout ça. Quels sont vos noms, messieurs et madame? You prefer after, oui. On chante, non. Alors, okay. Vous?
Bonsoir, monsieur Valentin.
Valentin, bonsoir. Voilà. Vous n'aimez pas dire votre nom de famille à la suite de problèmes fiscaux. Très bien, monsieur.
Je préfère perdre mon nom parce que c'est un nom basque, donc du coup je risque de faire sauter tout l'immeuble, voilà, tout simplement.
Très
mais
bien.
Sinon c'est Scratch pour les intimes.
Scratch et madame à l'accordéon, donc un accordéon.
À l'accordéon, Alice.
Alice à l'accordéon, thank you Alani, merci en direct ici, Alani Sirasi. Merci Alani. Okay.
Every man does his thing a little bit differently. Every man does his thing a little bit differently. Yeah. Every man does his thing a little bit differently. Oh. Every man does his thing a little bit different. Satisfaction guaranteed. I'm not showing my full head now. Thank you. Every man does his thing a little bit differently. Yeah. Every man does his thing a little bit differently. Oh, oh. Every man does his thing a little bit different. Don't take badness from far. Don't even go there now. Every man does his thing a little bit differently, yeah. Every man does his thing a little bit differently, oh. Every man does his thing a little bit. Every man does his thing a little bit. Every man does his thing a little bit. Every man does his thing a little bit.
Direct, un extrait de l'album Aka, qui veut dire a cappella, et vous serez en concert à Romanèche-Torrens le 25 mai et le 6 septembre à la Grande Halle de la Villette. Stay here, please, pour tout à l'heure. Un morceau qui s'appelle Dans le regard d'Alain Delon. Alors je l'ai vu parce que c'était l'hommage d'Alain Delon à Cannes. Arthur Lockman, vous êtes philosophe, charpentier, auteur de La vie solide, la charpente cométique du fer chez Payot. Vous êtes venu parler avec Patrick Bouchain et nous. De ce grand chantier, de cet espoir qui est né après la catastrophe, après le drame de l'effondrement de l'intérieur des charpentes de Notre-Dame. Vous parlez de la charpente, vous êtes arrivé à la charpente après, vous avez fait des études de philosophie d'abord. Vous saviez que vous alliez vous être charpentier ou pas ?
J'en avais aucune idée, non. J'étais paumé à la fac et je suis parti faire un CAP de charpente. Et j'ai découvert un monde que j'ignorais complètement. J'ai appris à me servir de mes mains, c'était une espèce d'extension du monde sensoriel, de l'univers sensoriel, sans commune mesure jusqu'à ce moment-là.
Alors c'est pas par hasard qu'on parle de l'intelligence des mains. Qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce que vous avez
mots,
appris
tous
sur
les mots qui désignent l'intelligence sont fondés sur la racine de prendre, de saisir, comprendre, apprendre. Tous ces mots-là qui désignent les gestes de l'esprit sont aussi des gestes de la main.
Pourquoi est-ce qu'on oppose toujours on a l'impression qu'on oppose les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels?
Ça, c'est une bonne question, mais ça résulte sans doute du système scolaire français qui cloisonne ou aiguille très tôt des gens qu'on estime bons pour les abstractions et puis d'autres qui sont pas du tout, qu'on considère pas à la hauteur et qu'on envoie dans des voies de garage.
Est-ce que vous n'aimez pas votre casque et vous voulez l'enlever?
Alors en fait, j'ai de la buée qui se forme sur les verres de mes lunettes, alors je vais l'enlever.
Non, votre casque, vous m'avez dit, vous n'aimez pas votre voix. Mettez-vous à l'aise. Est-ce que ça existe d'être maladroit pour vous? Quelqu'un qui est maladroit.
Je l'étais moi-même énormément. Ça a pris plusieurs mois avant que je puisse me servir d'une scie et d'un marteau correctement.
Alors c'est un peu risqué d'attaquer directement à la scie ou au marteau quand on est maladroit. Il vaut mieux commencer par le tissu et la soie. Vous êtes fracassé, vous êtes coupé des doigts ou pas?
Je me suis tranché pas mal de doigts. Je me souviens d'une remarque d'un des formateurs dans l'atelier. Qui me disait, en voyant l'état de mes mains, dis donc, tu te fais une manucure à la scie égoïne.
Est-ce qu'au début, quand on arrive, les gens ricanent, ils touchent l'intérieur de vos mains, on s'aperçoit que c'est pas calé, on se dit, oh, celui-là, il n'a jamais tenu un marteau de sa vie.
Surtout quand on est gaucher.
Ah oui.
C'est un préjugé qui reste assez ancré. Et quand on est gaucher, effectivement, on a à servir d'outils qui ne sont pas du tout faits pour les mains de gaucher.
Donc vous êtes arrivé, oui. Vous êtes arrivé donc chez des compagnons charpentiers. Comment vous avez fait votre apprentissage?
Je suis arrivé chez les compagnons à Anglette. Dure un an, le CAP accéléré. Et puis ensuite, je suis parti en Allemagne et j'ai fait une sorte de compagnonnage sauvage avec les compagnons allemands qui gardent une dimension très folklorique, très initiatique. Ils partent pendant 2 ans sur les routes avec un simple baluchon et un petit, une canne, un morceau de bois noueux.
Avec des surnoms comme autrefois, Berrichon, cœur fidèle, il y a des surnoms de compagnons, ou Savoyard,
Ça, c'est plutôt les compagnons français qui se désignent par leur origine et puis un surnom qui désigne leur qualité.
Vous en avez un ?
J'en ai pas parce que je suis pas compagnon, je suis un demi-compagnon comme les Allemands.
Alors quand vous arriviez donc de la philosophie, quel préjugé vous aviez et qu'est-ce que vous avez découvert qui était très différent de ce que vous imaginiez ?
Je pensais qu'il suffisait d'avoir une pensée, que la pensée conceptuelle ou abstraite permettait de tout comprendre. Et puis en fait, on découvre une pensée matérielle qui est faite de plein de choses très étranges, très étrangères au monde du livre. C'est la vision dans l'espace, c'est la capacité à sentir le bois, et à sentir pas seulement avec ses mains, mais aussi avec l'odeur. Parce que le bois et la matière, en général, ça s'appréhende comme tout un ensemble, ça forme un univers.
Donc ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de venir de l'intelligence jusqu'aux mains, parfois les choses remontent des mains ou remontent des sens vers le cerveau.
Ouais, c'est ça, l'apprentissage, ça consiste à apprendre à sentir à partir de ses mains, et à développer une intelligence de la matière à partir des mains et des résistances que la matière oppose aux mains.
Alors, dans votre livre, La vie solide, la charpente comédique du fer, vous parlez aussi de, j'ai envie d'appeler ça presque de l'acrobatie utile. Vous dites que c'est le contraire un peu des corps en action sur des machines de salle de fitness. Et tout à coup, il y a une chose qui, on apprend à faire beaucoup de choses avec notre corps qui ne servent à rien, tandis que là oui, quoi.
Là oui, et puis dans un cadre assez exceptionnel, quand on arrive, et je pense aux charpentiers qui vont travailler à Notre-Dame, quand on arrive le matin, quand il fait encore un peu frais et qu'il y a la rosée qui reste sur les morceaux de bois, et qu'on dépasse la ligne des toits, qu'on se retrouve au-dessus de la canopée urbaine, et que s'étendent à nos pieds une mer d'huile, une mer de tuiles, de zinc et d'ardoises qui ondulent avec la pente des toits. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel et pourtant de très quotidien.
Alors je ne sais pas si vous êtes parlé naturellement aussi joliment, sûrement, mais bravo à Tito aussi qui vous a inspiré avec ses doigts sur sa guitare. C'est une intelligence des mains aussi la musique, non la guitare ou le piano.
Exactement, et on parle du même type d'apprentissage pour les gestes des musiciens que pour ceux des chirurgiens ou des charpentiers ou des ouvriers manuels. On dit qu'on devient un maître de son art au bout de 10 000 heures de travail.
Il faut que les mains vous précèdent la réflexion quasiment, les mains anticipent.
Les mains guident, les mains font plus vite que l'esprit pour sentir la réaction de la matière, pour deviner la matière. Et à partir de plusieurs années d'expérience, on développe une intuition de la matière. On sent comment elle va réagir avant même d'y avoir pensé.
Alors, vous êtes à côté de vous, il y a donc Patrick Bouchain, et ensemble, vous êtes plutôt enthousiaste. Vous dites, quel est le pari de cette reconstruction de Notre-Dame pour justement tous ces métiers-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il faut reproduire les gestes d'autrefois ? Est-ce qu'il y a des nouveaux gestes ? Est-ce qu'il faut se servir des savoir-faire anciens ? Est-ce qu'il faut inventer quelque chose ? Comment Patrick Bouchain et Arthur Lockman appréhendaient et imaginaient cette refondation, cette reconstruction de la charpente de Notre-Dame ?
Je ne crois pas qu'il y ait de nostalgie à avoir. On dit qu'il faut se reconnaître héritier avant de se dire bâtisseur. On sait encore faire tous les gestes qui ont été inscrits ou incorporés dans la charpente de Notre-Dame.
C'est pas ces fameux savoir-faire perdus.
Non, on les maîtrise encore, tous les assemblages qui étaient là, qui étaient dans la charpente. On sait les reproduire aujourd'hui, simplement on n'a pas les moyens de consacrer autant de temps à un tel travail. Et ça dépend d'une volonté politique.
En fait, oui, c'est ça, parce qu'en fait, Patrick Bouchain, si jamais on faisait comme c'était à l'époque, il faudrait aussi le faire dans la même durée. Il faudrait pas se servir d'instruments modernes non plus, si on allait dans cette logique un peu passéiste, non ?
Oui, mais en même temps, on peut faire les choses lentement et avoir un temps assez court, si vous voulez.
C'est important de laisser du temps, de pas dire ça doit être fait en 5 ans. Ça, c'est un temps politique qui n'a rien à voir avec le temps de la construction.
Mais moi, je donnais comme référence quand le président Mitterrand a décidé de faire le Grand Louvre. Pour le faire, on a dit on le fera en 5 ans et on l'a fait en 30 ans. Mais ce qui comptait, c'était de l'ouvrir au bout de 5 ans. Et là, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait dire on répare très vite Notre-Dame et très vite on peut s'approcher d'elle. Et pendant qu'on s'approche d'elle, elle est en construction. Et c'est parce qu'elle est en construction qu'elle s'expliquera. Voilà. Et donc,
vous parliez de ça la dernière fois que vous étiez venu me voir. Je comprends que vous comprenez que pour des raisons de sécurité, certains aspects, endroits des travaux sont fermés, mais ça peut être joyeux d'assister aux travaux et d'être là pendant la reconstruction.
Mais d'abord, moi, si c'est dangereux pour les ouvriers. Alors, faut savoir ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y aurait un monde qui aurait le droit de travailler dangereusement et des gens qui ne pourraient pas approcher les gens qui travaillent. On est dans un monde où on ne sait plus comment les choses se font. Un enfant ne voit pas le travail de son père ou de sa mère. Il dit, mes parents travaillent, mais ils peuvent pas décrire le geste du travail.
Donc, c'est important pour vous que les gens aillent assister.
Oui, il y a ça. Et après, il y a une chose qui, moi, m'intéresse depuis presque toujours. Ce sont en général les plus modestes qui participent, c'est comme les agriculteurs, ce sont les plus modestes qui participent au chantier. Et comme aujourd'hui, la moitié des gens modestes, ce sont des gens immigrés, on pourrait dire qu'on a de la chance d'avoir des gens qui ont encore un savoir-faire, car ils ont vu leurs parents construire. Et en venant chez nous, ils peuvent encore ramener la vie de la construction. Et donc, ne pas travailler, voyez, avec ceux que l'on rejette, et de dire, mais peut-être que vous seul êtes capable de comprendre la construction. Et pourquoi au XVIIe siècle, on était content de faire venir un doreur, un laqueur, un plâtrier du monde entier. Un roi considérait qu'il était riche parce qu'il pouvait finir le travail d'ailleurs. Et donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on serait riche socialement de faire venir le travail d'ailleurs.
Donc ça dépasse, pardon, vous interrompez, ça dépasse le style dans lequel ça va être construit. C'est même ce qu'on entend par des grands travaux, en fait.
Écoutez, on a fait le calcul, il faut juste 1000 arbres pour reconstruire la charpente de Notre-Dame.
Je vous les trouve, oui.
Il en fallait 2000. Pour reconstruire l'Hermione, qui était donc la reconstruction d'une caravelle. Donc il en faut deux fois moins. Il faut 1000 arbres de 60 ans. Il ne faut pas et des arbres de bicentenaire, si vous voulez. Il faut des arbres verts. Parce qu'un luthier, quand il coupe un arbre, si vous voulez, un luthier il peut mélanger un arbre vieux avec un arbre jeune. Et d'ailleurs, c'est parce que l'arbre est jeune que l'instrument joue. Voyez, sinon, il ne jouerait pas et ça serait un instrument mort. Et donc, il faut mélanger les deux. Et donc là, moi, je pense qu'on retravaillerait sur ça, sur les temps, sur les savoirs. Et on montrerait cela, mais ça suffirait pour en faire un lieu de réunion. Et peut-être que ça serait le lieu œcuménique.
C'est joli. Alors donc, avant même de réfléchir à quoi ça pourrait ressembler à la fin sur tel ou tel projet, déjà concevoir les travaux comme étant eux-mêmes un moment de fête, ne pas attendre le résultat. Le résultat, c'est le mouvement lui-même.
Mais oui, moi, d'ailleurs, moi j'ai donc été formé par mon père. Je ne suis pas allé à l'école. Donc, moi, je m'ennuie à l'école. Mon père.
Pardon, Patrick Bouchon, parce qu'on vous présente une semaine sur deux. Oui. Alors, vous avez participé à énormément, comme ça, de transformation de bâtiments industriels, militaires et autres, en lieu de, je ne sais pas si vous aimez l'expression, lieu de vie, mais comme à Nantes ou dans mille autres endroits.
Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que on a commencé il y a 30 ans à dire qu'il faudrait peut-être mettre des lieux de vie dans les lieux de culture.
Rappelons les lieux principaux que vous avez transformés.
Ah bon, je sais pas, le premier, c'est d'avoir construit illégalement le théâtre équestre Zingaro,
voilà, Zingaro.
Sur le fort d'Aubervilliers.
Le lieu utile,
le lieu unique.
Parce
qu'on n'avait pas le droit d'appeler utile, parce que c'était le Fèvre utile. Après, j'ai fait donc le Chanel à Calais, la condition publique à Roubaix. Et puis après, j'ai fait donc la salle des musiques actuelles à La Rochelle, dans le port. Après, j'ai réhabilité la friche de la Belle de Mai, qui était l'ancienne Saïta à Marseille.
C'est extraordinaire.
J'ai fait 4 hectares dans un quartier très pauvre. Voyez.
Vous avez l'air de bien vous amuser, c'est très agréable de vous entendre.
Non, mais moi, je m'amuse parce que je pense que la vie est courte. Voilà. Et donc, comme j'en arrive au bout, j'ai envie de la transmettre. Et c'est pour ça que je voulais qu'Arthur vienne avec moi. Parce que je pense qu'il faut peut-être transmettre cette envie à d'autres. Quoi.
Merci beaucoup. D'être passé comme ça, Patrick Bouchon avec Arthur Lockman. Il a déjà envoyé la musique, Jérôme. Il anticipe. Merci, messieurs, pour la reconstruction de Notre-Dame comme étant des travaux, comme étant eux-mêmes une fête. Merci. I've been cheating on you.
You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all it's suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ, am I good for nothing?
France Inter.
Tout de suite, on me signale, avant de retrouver des amis navigateurs, explorateurs, que Jack souvent est rentré dans un cinéma. Vous avez payé votre place? Jack? Jack? Mon Dieu, ce moment de solitude quand l'interlocuteur n'est plus là. Allô? Allô? Je fais signe à Jérôme qui
est là. Édouard?
Oui?
Thibaut.
Allô, allô?
Thibaut, 20 ans, vous avez pris une place?
Attendez, je viens.
Attendez, vous avez
Jack?
Pris une place, oui. Pour. Oui?
Allez-y, Jack.
Allô?
Incroyable ce direct.
Oui,
on l'entend.
Vous allez voir quel film là ?
Dis-moi si tu peux.
Pardon ?
C'est dis-moi si tu peux.
Voilà.
On va rentrer dans le.
Vous allez rentrer, ça ne capte pas, on me signale, et même si on ne me signale pas, je m'en aperçois moi-même. Je n'ai même pas besoin de signalement pour m'apercevoir de l'échec de ce dialogue. Jack était donc devant un cinéma pour un film qui s'appelle.
Dis-moi si.
Oui, mon vieux, mais essayez de le dire. Ils sont peut-être dans les égouts, peut-être une projection dans les égouts. Séduis-moi si tu peux. Vous me renvoyez Jack, Jérôme, dès que ça passe. Hein, dès que ça passe, cette projection de cinéma, c'est bien d'entrer avec un micro dans un cinéma. Sillonner les mers, les océans, est-on seul avec un gallinacé? Guirec Soudé, vous êtes parti à 18 ans de chez vous.
Oui, ça, je suis parti à 18 ans, mais pas directement autour du monde à la voile, d'abord en Australie.
Non, soyez gentil, attendez, on reprend l'interview. Il ne faut pas que vis-à-vis des auditeurs, j'ai l'impression qu'ils s'aperçoivent que je dis des conneries.
Ah ok, pardon.
Donc je refais, si vous pouvez dire, je suis parti à 18 ans. Okay. Pardon. Guirec Soudé, vous êtes parti à 18 ans en Australie.
Oui, ça exactement.
Et ensuite, vous êtes parti sur les océans. Vous habitiez une île qui a une particularité, c'est qu'il y avait une maison, c'est vrai?
Oui, c'est ça, c'est un petit rocher dans les Côtes d'Armor.
Et qu'est-ce que vos parents faisaient seuls là?
En fait, à la base, c'était une maison de vacances et une résidence secondaire. Et comme mon père a pris sa retraite, il est parti habiter là-bas à l'année.
Alors, c'est où exactement? C'est en face de quoi?
C'est entre Perros-Guirec et Paimpol, voilà. Mais après, l'idée d'habiter dans cet endroit, c'est pour avoir une tranquillité. Donc, si je le dis,
oui, trop tard. Beaucoup de monde. Oui, mais vous avez donné le nom, puisque c'est aussi le nom de votre bateau. Donc
oui,
forcément.
Divinac, mais bon.
Mais maintenant, les gens googlent. Alors, donc là, vous êtes parti. À partir de quel moment vous vous êtes dit que voyager avec une poule, c'était différent?
En fait, moi, avant même d'avoir mon bateau, je rêvais de partir avec un animal. Donc, j'avais pensé à un chien, un chat. Le chien, je me suis dit, ça prenait de la place, c'est être un petit peu contraignant. Le chat, j'étais pas trop chat. Et je m'étais dit, mais une poule, ça peut être trop sympa. Surtout, la chance d'avoir des œufs frais en mer, en fait.
C'est alors, je connais pas les superstitions des marins. Ouais. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont amis des marins et d'autres non?
Oui, plus, ouais, voilà. Alors, c'est plus les lapins. Le mot lapin, faut pas trop le dire à bord.
Souvent. Ah non, ça donne dans le côté négatif. C'est ça. Et dans le côté positif.
Dans le côté positif, je suis pas au courant, du moins. La poule, maintenant.
Et pour le lapin, on sait pourquoi?
Oui, bien sûr, parce que dans le temps, en fait, il y avait beaucoup de lapins dans les cales des bateaux, qui mangeaient les provisions ou même les coques des bateaux en bois directement, et les navigateurs pouvaient perdre la vie parce que le bateau se retrouvait avec un trou, en fait.
Mais on peut pas dire castor non plus, alors.
Non, ouais, par exemple.
Ou raton laveur. Oui. On peut dire rat, par exemple, rat.
Rat, oui, on peut le dire. Ouais,
ça a été la viande principale dans beaucoup de bateaux dans l'histoire de la marine marchande.
Oui,
du rhum des rats. Alors, dites-moi, là, on est donc avec C'est un animal, c'est une personne pour vous, c'est qui Monique?
Bah, Monique, c'est un peu les deux, c'est surtout mon animal de compagnie. Voilà.
Alors Monique, c'est la même Monique ou est-ce que vous avez, depuis le temps que vous naviguez, vous avez changé de Monique? Quelle est l'espèce?
Non, je vous rassure, c'est la même. C'est la question qu'on me pose beaucoup de fois par jour.
Pardon, je suis désolé. J'ai connu des gens qui taillent des animaux, mais c'était jamais le même. J'ai travaillé avec plus de 15 idées fixes sur Astérix.
Monique a 5 ans et demi, pratiquement 6. Une poule peut vivre entre 10 et 13 ans, quoi. Une poule en forme, quoi. C'est Monique, voilà. C'est pas une poule d'élevage intensif. Donc, je pense qu'elle a encore quelques belles années devant elle.
Alors, il y a le côté un peu concret de Monique, le côté utilitariste. Monique pond des œufs.
Oui, c'est ça, complètement. C'était ça, l'idée numéro une. C'était d'avoir des œufs frais en mer. Moi, j'adore les œufs. Et d'avoir un petit peu de compagnie aussi. Mais c'est vrai que quand j'ai eu Monique aux Canaries, en fait, donc le projet était traversé l'Atlantique, mais je pensais vraiment pas arriver de l'autre côté avec elle. Déjà en vie, je me suis dit, elle risque de glisser, passer par-dessus bord. Et c'est vrai que si elle était amenée à tomber du bateau, ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de la récupérer. Et surtout, moi, j'avais jamais eu de poule avant. Je m'étais dit, si elle m'embête, je la mangerai, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui,
on peut pas dire ça si on prend un coéquipier. Là, ça, on ne peut pas le dire. C'est l'avantage.
C'est un peu plus embêtant.
C'est-à-dire, il m'emmerde. Oui. Alors, est-ce que c'est considéré comme une traversée en solitaire avec une poule ou c'est
pas... oui et non. Elle est une vraie présence, donc c'est une aide. Je peux pas lui confier des tâches très importantes comme hisser la grand voile ou tenir la barre. Elle adore se poser sur la barre, se percher dessus. Ça lui arrive de me prévenir quand il y a un cargo qui passe. La nuit, c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on dit se coucher aux heures des poules. C'est dès qu'il commence à faire un petit peu nuit, paf, là elle part et on la retrouve le lendemain matin, quoi.
Mais c'est pas un animal qui se caresse, c'est pas un vrai animal de compagnie, une poule, c'est une...
À la base, logiquement, non. Mais comme vous pouvez le voir, Monique, là, est sur moi, je la caresse. Tout à l'heure, elle parlait un petit peu. Elle est complètement apprivoisée, quoi.
Alors vous avez vécu des sacrées expériences. Vous passez des moments étonnants. Vous êtes bloqué dans la glace.
Ça
c'est très étonnant. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des endroits que préfère Monique? Vous sentez qu'elle est plus heureuse dans certaines régions du monde?
Certaines régions du monde, l'Atlantique, elle a adoré notre traversée au niveau des Alizés, parce qu'il y avait beaucoup de petits poissons volants. Donc Monique adore le poisson frais. Ce qui est marrant après, c'est que les œufs ont un petit goût iodé d'ailleurs. Donc,
comment on attrape les poissons volants?
Ils venaient s'échouer directement sur le pont du bateau, en fait, et Monique leur courait après. Et moi aussi, j'adorais ça d'ailleurs, mais elle était beaucoup plus rapide que moi. Donc, souvent, c'était elle qui gagnait.
Il y a une vraie émulation, il y a des cocos. Et dites-moi, j'ai vu que Monique, à un moment, a fait une dépression. Est-ce qu'on peut en parler ou c'est un sujet encore trop douloureux pour vous?
Non, c'est pas un sujet douloureux. C'est vrai qu'à un moment où on était à San Francisco avec Monique, moi, j'ai dû rentrer en France 2-3 semaines. Et comme elle est constamment avec moi, vraiment 24 heures sur 24, le fait de pas me voir, c'est vrai qu'elle était très triste et donc elle s'est peut-être pas laissée mourir, mais elle mangeait beaucoup moins. Enfin, ça se voyait à tout, quoi. Enfin, son physique, ça allait pas très bien. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a pas l'habitude d'être seule, du moins. Enfin, pas avec moi, quoi. Et c'est vrai que d'ailleurs dans le bateau, elle avait une cabine à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Et quand elle est à l'intérieur du bateau, dès que moi je sors, elle chante un petit peu. Un peu apeuré de me voir partir, quoi.
Bien sûr, vous parlez de Monique, on parle surtout de la poule, mais je sens que peut-être c'est une façon un peu pudique de reculer le vrai sujet, qui est la solitude, qui est la fuite, qui est le départ, qui est l'évasion, qui est l'absence de goût pour la société, ou au contraire le goût pour soi-même. Est-ce que cette poule, Monique, cette amie, vous empêche de vous poser ces questions essentielles? Est-ce que vous vous retrouvez quand même seul avec vous-même? À côté de vous, il y a Mathieu Tordeur qui est explorateur, qui a vécu aussi l'expérience de l'éloignement et de la solitude. C'est quand même ça le sujet. Moi, je suis un fan de Sylvain Tesson, qui est à la fois écrivain et explorateur. Et le vrai sujet, que ce soit navigateur ou explorateur, dans les neiges, dans les mers, c'est quand même ça. C'est se confronter à ce silence, à cette solitude-là, non?
Je crois que oui, mais effectivement, moi, je pouvais pas emmener d'animaux parce que les chiens sont interdits en Antarctique depuis les années 90. Autrement, c'est vrai que j'aurais aimé être accompagné d'un chien, mais pour ne pas bouleverser l'écosystème en Antarctique, on peut plus emmener des animaux. Mais je crois qu'on soit accompagné d'une poule ou pas. Enfin, je pense qu'on se confronte quand même à sa solitude et à soi-même tous les jours. Je crois qu'une expédition comme celle de Guirec ou la mienne, c'est vraiment une rencontre avec soi-même tous les jours. Enfin, je pense que Guirec pourra parler de.
C'est quoi votre route, Guirec? Alors, c'était quoi votre route?
Mon trajet, moi.
Oui.
Donc, en fait, on a fait un tour du monde par les deux pôles. On est parti de Bretagne, on a traversé jusqu'aux Canaries. Ensuite, on est parti dans les Caraïbes. Des Caraïbes, on est parti dans le nord. En fait, on a fait les Bermudes, Halifax au Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, on est parti au Groenland. On est resté un an dans 130 jours.
Mais hors course, c'est vraiment vous. C'est rendez-vous avec vous-même. Hein, vous n'étiez pas dans une course particulière.
Ah non, non, aucune course. Non, c'était vraiment l'aventure, quoi. Complètement. Moi, j'y allais étape par étape. D'ailleurs, avant de partir, je connaissais pas grand-chose à la voile hauturière. Donc, j'en ai fait 2 heures en solitaire avant de partir. Donc, je savais pas jusque où j'allais pouvoir arriver. Et donc je disais d'ailleurs à mes proches, bah, je partirai sur l'Atlantique, on verra pour la suite. Après j'ai toujours...
On va nulle part en fait, on va pas dans une direction, on va dans le mouvement.
On se laisse porter par le vent. Ouais. et ensuite, une fois qu'on a quitté le Groenland avec Monique, on a fait ce qu'on appelle le passage nord-ouest, qui sépare l'Atlantique au Pacifique, par le Grand Nord en fait. On est passé au-dessus du Canada, qui nous a emmené jusqu'en Alaska, la mer de Bering. On a traversé donc tout l'Alaska, les Aléoutiennes, le Canada jusqu'à Vancouver Island, puis San Francisco. Et de San Francisco, on est parti jusqu'au Cap Horn. Avec Monique, donc on avait 80 jours de mer.
Comme pour vous rassurer, vous toujours avec Monique.
Bah oui,
il
n'y
a pas
sûr.
Des moments où vous dites entre le côté un peu joyeux, gag, drôle des gens avec Monique, et des moments où vous la regardez, dites c'est quoi cette histoire d'avec Monique? Vous n'avez pas envie de l'étrangler, même sans la manger,
juste pour le plaisir.
Oui.
Non, je pourrais. Non, vraiment pas. Non, je préfère.
Vous avez pleuré déjà sur le bateau ou pas?
J'ai pleuré. Oui, il y a eu des moments parfois très compliqués. Ouais, évidemment. Après, c'est aussi pour ça qu'on y va, c'est ce qu'on va chercher, hein, évidemment.
Quand il y a des difficultés comme marin ou comme solitaire?
Comme marin, la solitude, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'aime bien me retrouver vraiment seul. D'ailleurs, je pense que c'est un luxe aujourd'hui d'être seul.
Vous faites quoi? Vous écrivez? Écoutez de la musique?
Bah,
vous lisez? Vous regardez
des bouquins qui sont juste en face?
Non, pardon, bien entendu, je veux dire. Non, peut-être que vous les écrivez après. Non, bien, je vous fais de m'excuser.
Oui,
non,
mais...
Tiens, prends ça dans la gueule. Je veux dire, pendant. Vous les écrivez pendant ou pas?
Oui, j'écris un petit peu pendant. Je filme aussi tout ce que je fais, donc ça me prend pas mal de temps. Je prends beaucoup de photos. Je discute avec Monique. Dès que je peux aussi, on s'arrête et on part se balader. On sait qu'on a eu la chance de voir des choses assez extraordinaires avec Monique.
Arrêtez avec Monique! Vous ne discutez pas avec Monique, vous monologuez! Vous savez bien que la folie, c'est pas de parler à un animal, oui. C'est quand l'animal vous répond.
Oui, mais, ouais. Après, on m'avait prévenu de partir comme ça dans les glaces pendant des mois. On m'a dit, écoute, direct, tu peux devenir fou, déjà que t'es pas très net, donc fais attention.
Oui.
Et c'est vrai que ça m'a pas.
Ces livres sont non seulement devant moi, mais je crois que je les ai un peu lus. je lis en vacances. Ça s'appelle Le Monde selon Guirec et Monique, c'est chez Flammarion, un marin, une poule, un aquarium voyage, et la fabuleuse histoire de Guirec et Monique, se réfugier derrière Monique, c'est ce que je vous conseille tous en psychanalyse. À tout de suite, je crois qu'il faut que je laisse l'antenne à un mélange de journal, de pub. Ah non, d'habitude je me fais engueuler. Ah, il y a Jack qui est retourné au cinéma. Restez là, messieurs. Jack, oui. Vous avez pu rentrer dans le cinéma?
Surtout, ouais. Non, surtout, on est sorti du cinéma et Arnaud et tout ça, vous avez raté votre séance, là?
Non, là, on attend, là. Ça fait 20 minutes qu'on vous attend.
Sur un autre ton.
Vous m'avez dit, vous avez 20 ans, vous cherchez votre voix, là.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai un peu fait, je sais pas.
Non, vas-y. Arnaud, c'est ça?
Non, je sais pas. Non, Edouard.
Qui s'appelle Edouard?
Moi?
Moi aussi. Qu'est-ce qui nous arrive?
Oui, je sais, moi c'est Edouard Bouchard.
Qu'est-ce qui se passe? On devient fou. Edouard, tu cherches ta voix, ça se trouve pas, une voix. T'es dedans sans le savoir. Il n'y a pas une voix avant, une voix derrière.
Je sais.
T'es dedans, t'es en train de vivre ton truc là. Tu n'attends rien, l'attente fait partie. Oui, tu restaures. T'es en cuisine, t'es en salle, t'es en attente. T'es où? T'es à l'accueil?
Je suis en salle. Chef de rang.
T'es un gentil chef de rang et t'es serveur, t'es serveuse, tu partages les pourboires? Tu ne sadises personne?
Bien sûr.
Tu accueilles les gens? Mais vous êtes formidable alors. Mais vous l'avez trouvé votre voix?
Non, pas encore.
Il y en aura d'autres.
Qui est très dur. On charbonne tous les jours.
Ouais, mais on charbonne.
Il y en aura d'autres, mais bien sûr.
Mais bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qui est pas dur? Vous voulez un truc tranquille? Vous voulez la couler douce? Les doigts de pied en éventail?
Ouais, voilà.
Mais non,
voilà.
C'est très chiant. C'est regardez, il y a un mec
comme
qui
vous,
est là.
Non
mais ah oui, moi oui, mais il a fallu du temps pour arriver à ça. Il a fallu que j'en écrase des mains. Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, c'est psychiquement. Moi, c'est pas dur. C'est je me mets dans des états psychiques fous. Je me mets dans des énergies très bizarres.
Moi,
oui,
pareil.
Parce qu'il faut que j'ai envie d'être heureux et de parler avec des gens. Et parfois, vous savez, on se met dans des états.
Je comprends pas trop ce que vous
me dites. Non, moi non plus.
Et
bien là, c'est vraiment le genre. Edouard, retournez. On se rappelle après le film. Il s'appelle comment ce film?
C'est du moi si tu peux. Je m'appelle Edouard.
Aller au cinéma à 11h du soir, charbonner, ou bien faire du bateau avec sa poule, ou parler à la radio à 10h du soir les dimanches, chacun sa voix tout de suite. C'est la même.
Lumière dans la nuit. Edouard Baird. France Inter.
Autour de la table au Bel Air, Franck de Smet qui interprète Le Voyage au bout de la nuit. Vous êtes bien installé, Franck? Vous installez-vous un peu?
Ça y est, parfait.
Voilà, mettez-vous juste à côté de vous un autre homme qui est seul sur scène. Bonsoir, Mathieu Langatte.
Bonsoir.
Vous connaissiez pas du tout, vous dites des textes à vous, parce qu'au début, on vous a connu par Bonjour Tristesse, ces petites vidéos très coup de poing sur Internet. Là, vous faites un spectacle d'une heure et demie.
D'une heure et demie. Et sans crier. J'ai pris sur moi et j'ai avancé dans la vie et je parle calmement sur scène.
Vous pouvez avoir une colère calme ou sans colère? Si, c'est la colère que vous
commentez. C'est de la colère très calme. Enfin, c'est de la colère moins agressive, du moins. Mais le fond de l'idéologie est le même, peut-être. Heureusement ou malheureusement.
Ouais, il faut garder sa colère. Donc, restez là. La poule est toujours là. Monique est toujours là avec Eric Soudé. Mathieu Tordeur, vous restez avec nous pour parler de vos explorations. Pat est là. Pat, ouais. Comme chaque année, je te donne pas de micro. Mais tu es avec moi. Et Alani, un extrait de l'album Alani and her musician. Alani, c'est musicien en bilingue. Bilingual l'émission ce soir, ici.
Now?
Oui.
Ok.
Merci. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas du tout d'application. La grande Alani. Un extrait de Aka. Une beatbox, un accordéon, un violoncelle, un rire.
It's a sad song.
No, sorry.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay to me, your words, they soothed me, baby. Of your guys, all you told me really was a lie. Help me, darling, you hurt me. Shalala, shalala, baby.
la guitare, avec Tito qui s'est invité dans le groupe, Scratchy beatboxer, Alice Lemoine à l'accordéon, Valentin violoncelle. Merci beaucoup. Vous n'avez pas que fait que beatboxer, Scratchy, vous avez aussi dit chalala. Ça fait partie de vos attributions.
Vous avez ventriloquisme.
Vous avez ventriloqué.
En ventriloque, ouais.
Bon, ça va. Alice Lemoine, vous n'êtes pas de la famille d'Yves Lemoine, mon ancien professeur de théâtre, ça, non? Alani, are you happy to have invited Tito in your song? Est-ce que Alani, oui, qui a invité mon musicien, voilà.
Always.
Merci beaucoup. Oui. And you said it was a sad song, but you were smiling during all the time. Elle a souri, elle m'a dit que c'était triste, mais vous avez souri tout le temps.
Well, heartbreak is happy and sad. Right?
Because it opens to a new thing.
Yeah, voilà, you get rid of the shit and you have something new.
Voilà,
so you're going to be happy about it.
Comme disait Renaud, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Merci, merci beaucoup. Thank you very much, Alani. Ouais. Est-ce que on a ces nostalgies-là quand on part à l'aventure, quand on part seul à ski, en 4L, à pied, tous les moyens de transport qu'a utilisé Mathieu Tordeur, qui est là depuis des années, où il sillonne le monde, où il a rallié le pôle sud, le pôle, j'embrouille pôle emploi et pôle sud, et les gens qui s'appellent Paul. Seul, qu'est-ce qui vous manque quand vous partez à l'aventure de ce qu'on appelle la civilisation?
Moi, je crois que je pars pas. J'aime autant les départs que les retours, donc je pars pas. Il n'y a pas de fuite dans ma démarche.
C'est comme les colonies de vacances, on pleure deux fois, une fois en partant, une fois en rentrant. Il n'y a pas de fuite, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent?
Mais je crois pas. Moi, quand j'étais en Antarctique pendant quasiment deux mois, donc c'était le jour permanent. Donc ce qui m'a le plus manqué, c'était peut-être de ne pas voir la nuit, de ne pas avoir accès à une douche, de ne pas avoir accès à de la nourriture fraîche, des fruits, des légumes. Et puis de ne pas ressentir les odeurs. C'est vrai que l'Antarctique, c'est un continent qui est très stérile. Donc on est dans un congélateur permanent.
Ça existe le vrai zéro odeur comme est-ce que le silence absolu dans le désert existe aussi?
Alors, c'est assez peu silencieux, contrairement à ce qu'on peut penser, l'Antarctique, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et en fait, le vent sur la tente fait beaucoup de bruit. Les vêtements font du bruit quand ils s'entrechoquent. Les skis sous la glace et la neige font du bruit.
Alors, donc, si on finit par entendre le tissu de ces vêtements, c'est que vraiment c'est silencieux autour.
C'est vrai qu'après, c'est un environnement silencieux, mais quand il y a du vent, c'est un environnement qui est très sonore et avec des bruits qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre.
Qu'est-ce qui motive au départ, Mathieu Tordeur, à chaque fois? Comment vous lancez dans une nouvelle mission, une nouvelle idée, un nouveau moyen de transport, une nouvelle destination?
Je crois que c'est je valorise beaucoup l'expérience, c'est-à-dire que je suis un spécialiste de rien, vous l'avez mentionné, j'ai multiplié les moyens de transport, les destinations. Ce qui m'intéresse, c'est surtout des endroits que j'ai pas pu parcourir ou des moyens de transport que j'ai pas expérimenté auparavant. Donc il y a une forme de curiosité. Et puis après, c'est une recherche peut-être un petit peu de... pas forcément de solitude, parce que toutes mes explorations n'étaient pas solitaires, mais c'est une recherche un peu d'arrêter le temps. En Antarctique, c'était vraiment le moment où j'ai pris le temps de l'introspection, de la contemplation aussi, parce que voilà, j'avais fini mes études, j'avais 26 ans, et c'était un moment pour moi de faire un pas de côté, donc je trouvais que c'était un bon endroit pour le faire.
Alors Guirec Soudet, qui est avec Monique à côté, lui finalement écrit des livres, vous êtes conférencier, vous intervenez beaucoup dans les entreprises, beaucoup de gens vous demandent de témoigner. Sylvain Tesson est écrivain, est-ce que ce sont des façons de vivre pour vivre votre aventure, ou est-ce que vous partez pour raconter?
Alors je pense que c'est très lié, moi je commençais par dire que je suis spécialiste de rien, je pense que Sylvain Tesson est avant tout un écrivain,
Lui, vous pensez, quand il va s'enfermer en Sibérie, quand il prend les chemins noirs, c'est dans l'idée de témoigner, c'est l'écriture est
préalable. Oui, et peut-être de se retrouver aussi avec lui-même. Sylvain Tesson, il a fait beaucoup de voyages où il se déplaçait dans le temps, enfin dans la géographie, en utilisant un vélo à pied. Quand il était dans la cabane en Sibérie, c'était un voyage immobile. Donc je pense qu'il a besoin justement de multiplier un petit peu les façons de faire, les façons de voyager et de se retrouver.
Vous ne vous dites pas dès le départ, qu'est-ce que je vais raconter?
Aujourd'hui, je fais ces aventures-là et je les partage, et ce temps du partage, il est essentiel. C'est peut-être la majorité de mon temps, je passe mon temps à partager mes aventures ou à les préparer, et puis après peut-être le reste du temps je suis en aventure. Mais le fait de les partager, de s'adresser à des publics aussi divers que variés, c'est-à-dire des collégiens, des lycéens, des entreprises, ça permet de faire vivre l'aventure un peu différemment et de donner aussi du sens un petit peu à tout ça.
Qu'est-ce qui fascine le plus les lycéens, les collégiens, les enfants?
C'est comment on fait pipi et caca par moins 40 degrés et comment on peut ne pas prendre de douche pendant 60 jours. C'est une chose qui marque. Comment on fait? Alors c'est une bonne question. quand on est dehors le plus rapidement possible, et sinon le mieux c'est quand même de faire ça à l'intérieur de sa tente. Je serais curieux d'avoir l'expérience de Guirec aussi quand il était au Groenland. Et sinon pour le pas de douche, c'est assez curieux parce qu'on s'habitue bizarrement. Le dixième jour était assez pénible dans le sens où au bout du dixième jour, c'était vraiment le moment où j'avais vraiment envie de me laver. Et après en fait au bout du 45e, 50e jour, on s'habitue. Alors je vous rassure, j'ai pris pris des douches. Je prends des douches tous les jours maintenant et je change de caleçon tous les jours.
Je m'inquiète pas.
Mais c'est vrai qu'on s'habitue. C'est très curieux.
C'est fatigant ces sociétés hygiénistes. Tant que personne ne se plaint, il n'y a pas de raison. Dites-moi, Guirec et vous aussi, Mathieu, est-ce que les problèmes de votre moyen de transport, parce qu'on croit toujours qu'on a l'esprit vagabonde quand on est seul en mouvement, mais en fait, c'est surtout le moyen de transport, c'est la survie. On est occupé par des choses très concrètes, non?
Oui,
pardon, il y a déjà une tentative de réponse dans la question. Vous pouvez répondre que je dis des conneries. Hein.
Ouais. Non, pas du tout. Non, mais par exemple, moi, je pense au moment où on était pris dans la glace avec Monique. On savait qu'on allait vivre quelque chose de compliqué. On est resté.
Monique Godpool, je rappelle.
Monique
Godpool,
ouais,
la première.
Mais une vraie poule. Hein,
je rappelle que Greg Sodé traverse les océans à bord de son voilier Ivinec avec sa poule. Oui,
oui, c'est ça. Donc, par exemple, qu'on a fait notre hivernage, on savait qu'on allait dans quelque chose de pas simple. Et on a eu des températures aussi très basses qui pouvaient descendre jusqu'à moins 60 degrés. On n'a pas eu de soleil pendant 70 jours, très peu de nourriture. Moi, j'ai pu survivre entre autres grâce à Monique, parce que j'avais pris que du riz en fait, pendant l'hivernage. Je comptais pêcher, sauf que l'endroit où je me trouvais, il n'y avait aucun poisson. Heureusement que Monique a pondu 106 œufs. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes avec... 106 œufs. Ouais, 106 œufs quand même.
Et, ça fait donc 53 omelettes de 2 œufs.
C'est ça. C'était assez rigolo d'ailleurs au Groenland, ils n'ont jamais vu de poule. Donc,
et vous, Mathieu, est-ce que l'idée qu'il y ait aussi une contrainte de mettre en sport, que ce soit compliqué, c'est une chose qui vous pousse à le faire ou bien...
C'est vrai que j'avais choisi de faire cette expédition en plus sans assistance.
Laquelle là, au pas?
Alors, je suis parti de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud.
C'est ça.
Et donc l'idée, c'était de partir en solitaire, sans assistance. Ça veut dire pas de voile de traction, pas de chien de traîneau, donc uniquement à la force de mes jambes et de mes petits bras, et sans ravitaillement. Donc ça veut dire que j'avais pas de nourriture qui avait été déposée sur le chemin. C'est une expédition qui faisait 1150 km de distance, donc ça fait à vol d'oiseau un petit peu Ajaccio-Calais, ouais, pour donner une idée. Et le fait de m'ajouter ces contraintes là, c'était plutôt une idée de vivre l'aventure la plus, un peu, j'aime pas trop ce mot, mais la plus pure possible, c'est-à-dire de partir d'un point A à un point B et de dépendre de rien ni de personne tout du long, un petit peu à la façon des premiers aventuriers, des premiers explorateurs. Donc c'était, je sais pas, pour moi c'était mais un petit peu comme quand on part sans assistance à la voile aussi, c'est ouais, l'idée de vraiment se retrouver confronté aux éléments, ouais, ouais, et d'évoluer dans ce paysage. Moi, je me souviens qu'au début de l'expédition, il a fait assez chaud en Antarctique d'ailleurs, et j'étais pas totalement à l'aise avec mon traîneau, avec la météo qui était capricieuse. Et puis, au fur et à mesure de l'expédition, je me sentais de plus en plus dans les éléments, en harmonie avec l'Antarctique, et j'ai l'impression vraiment d'apprivoiser ce continent de plus en plus. Et c'est ça, en fait, qu'on part rechercher en partant avec des contraintes.
Autre expérience, oui.
Parce que je pense que si on a, voilà, je sais pas, un pare-brise, qu'on est en voiture, par exemple, parce qu'il y a des expéditions aujourd'hui qui se font avec des voitures, si on a le chauffage, le pare-brise, ouais, on ne vit pas la même aventure.
Il faut de l'eau pour les essuie-glaces.
Bah aussi, ouais.
Autre expérience solitaire, merci beaucoup Mathieu Tordeur, plus jeune explorateur au monde, d'avoir franchi le pôle sud et membre de la légendaire société des explorateurs français. Et merci à Guirec Soudé. Autre expérience solitaire, d'être seul sur scène. Tiens, je suis ravi de cette liaison, on dirait une vraie émission, je vais la noter.
Pas mal, pas voilà, mal.
Hein, c'est pas mal. Franck De Smet, vous êtes seul sur scène, et Mathieu Longat aussi. Franck De Smet, vous dites un texte, vous êtes seul avec Céline, Voyage au bout de la nuit, qui n'appartient pas à Fabrice Luchini, vous avez d'autres gens le droit de le dire. Vous le dites, vous avez appris, vous avez fait un montage, si Eugénie me tend le papier, je vais dire avec qui elle l'a fait, Eugénie. Ouais,
avec Philippe Del Socorro.
Philippe Del Socorro, merci.
Non, bah disons
vous êtes
que...
au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 1er juin. Tout le monde m'a dit que c'était bouleversant, que vous êtes incroyable là-dedans. Vous avez le regard, moi je vous ai connu avant, ça a transformé votre regard. On dirait que vous voyez à travers les gens depuis que vous dites du Céline.
Non, bah disons que Luchini, il le faisait super bien, il mettait de la
aussi,
distance.
Bien sûr, ouais.
Et j'essaie d'incarner vraiment le personnage de Bardamu et de rentrer dedans avec tout ce que ça comporte de danger et de mise en... En danger, oui, c'est un saut dans le vide de jouer Céline.
Quel extrait là vous...
Alors, puisqu'on est dans l'exploration, peut-être le départ en Afrique.
Le départ en Afrique de Bardamu dans le voyage au bout de la nuit.
Notre navire avait pour nom l'amiral Bracton. C'était un bateau de la compagnie des corsaires réunis. Il ne devait tenir sur ses eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelure avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l'amiral Bracton, à la manière d'un oignon. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un paquet de lames pilettes, j'allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des esclaves. Mineurs, c'était promis la vie, quoi, putain. Mais dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certains matins au réveil, nous fûmes comme dominés. par une ambiance d'étuve, infiniment tiède, inquiétante. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout, tout tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous le derrière, sous la gorge. Sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral Bracton, condamné à ne plus s'éloigner du bar envoûté. Rivé au ventilateur, soudé aux petits morceaux de glace. Ah, ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. C'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquée, libérée, bien débraillée, enfin leur vraie nature, quoi. Tout comme à la guerre. À l'embarquement de Marseille, je n'étais guère qu'un insignifiant rêvasseur, mais à présent, par l'effet de cette concentration agacée d'alcooliques et de vagins impatients, je me trouvais doté méconnaissable d'un troublant prestige. On crut discerner en moi de la malveillance. Une demoiselle ne voulut connaître de repos qu'après qu'on m'eut enfin ramassé et pantelant. Corrigé pour toujours de mon imaginaire impertinence, puni d'oser exister en somme, rageusement battu, saignant, meurtri, implorant pitié. Sous la botte et le poing d'un de ces gaillards dont elle brûlait d'admirer l'action musculaire, le courroux splendide, scène de haut carnage, dont ses ovaires fripés pressentaient un réveil, ça valait un viol par gorille. Le temps passait. Et il est périlleux de faire attendre trop longtemps les corridas, j'étais la bête. Le bord entier l'exigeait, frémissant jusqu'aux soutes. On n'est jamais assez craintif, Edouard. Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue. Voilà, je vais me coucher, merci beaucoup.
Merci. Merci. Vous avez rajouté le Edouard qui est pas dans le texte, un extrait du Voyage au bout de la nuit que vous jouez au théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 1er juin. Vous allez peut-être tourner après, j'espère, Franck. Vous allez tourner ou pas?
Oui, ça va se reprendre après au Lucernaire et puis un autre seul en scène à la rentrée au La Bruyère d'Irène Némirovski.
Merci beaucoup.
C'est tout pour moi.
C'est tout pour moi. Juste à côté de vous, un autre exercice de seul en scène, Mathieu Longatte. Les gens ne connaissaient pas votre nom, vous appelez Bonjour Tristesse, qui était étonnant dans votre façon, parce que Bonjour Tristesse, c'était d'abord, évidemment, c'est un texte de François Sagan, c'est une sorte de chose, on imagine quelque chose d'un peu mou, d'un peu languide et tout ça, et vous c'est une langue qui mord, quoi. Moi ça me frappait, je regardais vos vidéos sur internet, c'est des morsures à chaque fois.
Un petit peu, je sais pas, c'est l'énergie naturelle que me procure l'atmosphère politique actuelle en France. Enfin actuelle, ça fait quand même bientôt 50-60 ans minimum qu'on se fait baiser quand même. Je nous trouve d'une patience hors du commun. Mais du coup oui, effectivement ça vient assez naturellement cette énergie quand je suis confronté au mépris des politiques à notre égard.
Alors c'est spécialement les politiques ou c'est là votre spectacle, il s'appelle État des gueux, c'est quoi? C'est les grands contre les petits, c'est les
le spectacle, ça a été l'occasion de en gros prendre un peu la politique pour prétexte pour se demander qu'est-ce qui nous empêche de nous lever, enfin qu'est-ce qui fait qu'on se laisse piétiner de cette manière, et du coup ça me permet de parler beaucoup plus de société et de mettre nous à l'échelle des citoyens, qu'est-ce qui nous divertit justement de faire la révolution ou de se faire respecter tout simplement, et du coup ça me permet de parler de plus de société, mais la politique est un prétexte, alors que dans Bonjour Tristesse effectivement c'est plus mon cœur de cible naturelle.
Vous c'est un truc que vous aviez dans la vie, vous venez de la scène, de la poésie, du spectacle, de la politique, vous êtes C'est un citoyen en colère, juste, ou vous êtes un...
Il y a un mix de plein de choses. J'ai beaucoup baigné dans la littérature, j'ai baigné dans la politique très jeune. Je les ai détestés très très jeune. J'ai été très baladure 95, je suis de 87, donc 8 ans, j'ai commencé à les détester, à peu près. Et du coup, pour moi, l'art, c'est aller chercher au plus proche de soi. Enfin, ma théorie, c'est ma théorie personnelle sur l'art. Je sais qu'il y a plein de visions, mais si t'arrives à aller chercher une introspection sincère, subjectivement, et que tu arrives à la ressortir honnêtement, ce qui est déjà un travail énorme, tu vas aller chercher des résonances chez des gens. Et du coup, moi, j'ai pas été chercher loin, je détestais les politiques, j'ai la culture de la vanne.
C'est l'idée, c'est la professionnalisation de la politique qui t'énerve?
Non, c'est pas du tout la professionnalisation de la politique, c'est le fait, vraiment, c'est cette récurrence dans le fait de vouloir baiser le citoyen, vraiment, hein, ça me paraît être le cœur de leur métier depuis bientôt 70 ans, un espèce de... d'imposer aux gens une fiction, en fait, un faux prisme qui leur fait croire qu'ils courent après des intérêts qui sont en fait que ceux des puissants, alors que y a plein de choses qui sont...
Pas que des puissants, peut-être. Est-ce que tu penses que le mensonge fait partie de... À partir du moment où tu te lances en politique, tu acceptes une part de mensonge et démagogie, c'est ça qui t'énerve? Tu penses qu'on pourrait en faire autrement?
Alors, au-delà de la démagogie, parce que pour moi, on a dépassé ça depuis au moins 20 ans, c'est-à-dire qu'avant, les politiques promettaient des choses qu'ils ne faisaient pas, et maintenant, ils promettent des choses et ils font l'exact inverse, qui est quand même une étape qui est à minima notable.
Il y a mon vieux copain Pat, ce vieux militant anarchiste qui opine du chef qui est d'accord.
Non, on a passé un cap quand même, parce que moi, j'étais pas sûr qu'ils pouvaient progresser non plus, mais je vous jure, ils ont progressé.
Oui, un moment le vrai, le faux était un moment du vrai, et tu as l'impression que maintenant c'est quasiment le, il faut entendre le contraire quand beaucoup de politiques parlent.
Quasiment, et que même, et je suis aussi inquiet en vrai de la désertion d'espoir qu'il y a chez les citoyens, parce que quand il y a plus de, enfin, c'est que souvent ça annonce des choses dramatiques, et avant on pouvait se convaincre qu'on pouvait y croire, et maintenant j'ai l'impression que il y a de moins en moins de gens qui sont dupes, et que moi par exemple quand je vois que j'envisage même pas d'aller voter pour les européennes politisées comme je suis, je peux annoncer d'avance qu'on aura un chiffre record alors qu'on a des chiffres records à chaque fois, mais là ça va être un chiffre record. Voilà.
Alors la parole, ça sert quand même à quelque chose. Prendre la parole, se faire entendre, c'est quand même un pays où on peut se faire entendre, on peut s'écouter.
Absolument.
On peut l'ouvrir, on peut ouvrir
cette. Et c'était même l'idée, parce que je crois assez peu au fait qu'on puisse pas dire ce qu'on veut. Moi je crois que Internet aurait dû être l'apogée de la liberté d'expression chez les artistes, sauf que du coup on a été confronté à la plus grande des censures qui est l'autocensure. Mais en vrai, on dit ce qu'on veut, on a une plateforme, si on arrive à tenir des propos écrits ou du moins digestes, il y a des gens qui peuvent venir nous écouter, on peut s'adresser directement à eux. Et on n'a jamais eu autant d'artistes baltringues qu'à notre époque. C'est-à-dire que, genre, moi je me considère pas comme engagé, par exemple, je pense que dans les années 80, je passe de manière, je suis inaperçu.
Oui.
C'est notre époque qui me donne du relief.
Et tu es artiste d'abord, toi?
Ouais, je suis artiste parce que je suis pas politique, parce que pour moi l'art c'est vain par définition, et je crois pas assez en la nature humaine.
Mais tu crois
en la prise
de parole, tu crois dans la prise de parole pour changer les choses, que les mots peuvent changer des choses.
Je sais pas, c'est vraiment une thérapie individuelle qui est devenue un peu collective, mais à la base c'était pour me faire du bien à moi, où je coupais la télé parce que je me disais pourquoi je m'occupe avec ces problématiques sur lesquelles de toute manière je n'ai aucun impact et qui me névrosent, donc où je coupais ma télé, où j'en faisais un jus artistique. Et du coup, moi, il y avait l'idée de se venger un peu des politiques, me dire je peux parler et m'adresser à eux directement. Ils m'humilient chaque jour, pourquoi moi je le ferais pas non plus.
Moi, c'est ça que j'aimais dans tes vidéos. J'ai pas encore vu le spectacle. C'est d'avoir l'impression que c'est pas formaté. C'est le cri de colère d'un citoyen. Après, ça gonfle parce que les gens se reconnaissent. Ou même si on n'est pas, même des gens qui sont pas d'accord, on est pas obligé d'être d'accord. Mais
absolument.
Mais la sincérité totale de ce que tu dis et qui est pas formaté pour telle ou telle audience, quoi.
Ah ouais, non, qui est clairement pas formaté. Et au-delà d'être formaté, vraiment, on est vraiment à une époque où l'immense majorité des artistes, et ils ont raison en fait, en termes de calcul d'opportunité. On a une époque où les spectateurs ou les gens qui consomment de l'art veulent être en accord à 100% avec l'idéologie du locuteur, de l'artiste, alors que j'ai eu l'impression qu'à d'autres époques, on pouvait juste se dire bon, il est con sur ce sujet, etc. Ouais, du coup, les artistes prennent plus le risque.
Est-ce que le retour de bâton, il n'est pas plus direct depuis que tu as Internet aussi? C'est la peur tout à coup que le lendemain, une heure après,
mais c'est la peur.
Sur Twitter. Mais
l'art à la base, c'est faire des trucs inutiles. Enfin, 20 par définition, pas inutile, 20 par définition, du moins. Et c'est jeter une pièce en l'air et attendre de voir de quelle manière elle nous retombe sur le visage.
Alors, enfin, c'est pas inutile, c'est parce que, tu parlais aussi d'une parole utile, quand même, une parole qui doit réveiller, qui doit faire du bien ou inquiéter.
Je sais pas. Après, il y a par exemple, moi, à l'échelle de ce que je fais, par exemple, je sais parce que via le nombre de messages que je peux recevoir, etc., les retours, je sais que je fais du bien à des gens, mais typiquement peut-être je leur enlève un jus révolutionnaire aussi. Peut-être que vu que c'est très cathartique et que j'humilie les politiques pour eux, ils en sortent un peu moins chaud pour faire la révolution. Je suis très neutre sur mon utilité ou au contraire mon.
Tu as un extrait là, parce que je peux, dans le spectacle dans État des Gueux, c'est un autre ton que celui que les gens qui te connaissent par tes vidéos sur YouTube.
Complètement. Et même là, ce que je vais faire, c'est encore un autre ton que mes vidéos YouTube. Mais j'ai eu l'occasion de. Il y a eu un concert anniversaire d'Arsenic, un groupe de rap un peu fondateur en France, et qui a fêté ses 20 ans à l'Olympia. Et du coup, ils m'ont donné l'opportunité de faire un texte qui montrait
Est-ce que tu veux que je mette quelque chose?
Que rien n'avait changé.
Tu veux que je mette un fond ou pas?
Ma vie, c'est blablabli, blablablu. Mais si tu veux mettre un fond, tu peux te la tenter, mais ça va être très anarchiste, quoi qu'il arrive.
Regarde, j'aime bien celui-là, moi. Tu l'aimes bien ou pas?
Très bien.
Ouais.
Bonjour tristesse, rien n'a changé depuis 98 et quelques gouttes suffisent. On est passé de Jean-Marie à Marine et les chaînes font croire que Le Pen est devenue bonne. D'une chienne, ils veulent te faire une nonne. On chie toujours sur ces hyènes, le temps n'a pas changé la donne. Dans ce pays, des mecs comme Benalla font la loi. On dit de te serrer la ceinture et de ne tirer droit. Pendant que dans la cour des bourgeois, au milieu de l'or des plats, des mecs tabassent sans droit ni sans froid, payés par tes impôts, 7000 balles par mois. Et c'est le meilleur ami du roi! Il se branle dans nos draps, ces bâtards-là! Dans ce pays, la police tue toujours à l'aise. Elle peut, avec elle, l'omerta et calabraise. La justice, c'est du vent qui souffle sur la braise. Les gens crient nique la police, mais c'est bien elle qui nous pèse. Justice pour Adama, justice et égalité pour tous. Zied et Bouna, 15 piges, on n'oublie pas. 2005, c'était pas des émeutes, c'était une révolte populaire pour la justice des enfants. Entendre la vérité, ça fait du bien. Du moins, c'est ce que j'en pense. Bref, ici toujours les mêmes douleurs. Et si tu crois que la France est fraîche, tu verras au fond des yeux des gens de couleur
que la saison blanche est sèche.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Bravo.
Je vais en... Ah oui, c'est... Oui, ça... Ça y va, quoi. Je vais...
Pardon. Hey, alors c'est, oh, c'est un iceberg de colère au milieu de l'Antarctique de la poésie, j'en ai conscience. Mais un jour, je traverserai l'Atlantique en solitaire, non, j'espère aussi. J'ai certainement beaucoup plus de respect pour ce que vous faites.
Non, non, pourquoi? Non, non, il y a plein de questions. Ça passe la colère de prendre la route aussi ou pas?
Ah, ça passe la colère. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve
Mathieu Turder, explorateur.
Vraiment avec soi-même, quoi.
On écoute des choses, vous écoutez des choses, l'un et l'autre, Guirec Boudet en bateau.
C'est soudé, en fait. Et
ah non, pourquoi j'ai dit coudé? C'est parce que je dis
moi, j'écoutais des choses.
Pardon.
Moi, je vous écoutais. C'est-à-dire que j'avais emmené énormément de podcasts et j'avais téléchargé tous les Lumières dans la nuit. Donc, le fait de réentendre le générique, ça m'a fait un petit quelque chose. Après, c'est vrai qu'on a mal entendu Jacques souvent. Et
oui, alors, est-ce qu'il est où, Jacques souvent, là? On va l'écouter. Eh ben tiens, incroyablement annoncé.
Ça va me faire du
on
bien.
Entend Jacques souvent, qui est toujours notre promeneur dans la rue. Je raconte pour Mathieu Longade qu'il lui n'écoute pas l'émission, ce salaud. Parce
pas
qu'il
du
est,
tout.
Il est...
Je suis dedans, c'est la troisième fois qu'on a ce monsieur. Mais...
oui, parce qu'il se balade dans les rues.
Et il a lâché les cinéphiles.
Ouais, je sais pas où il est. Jacques.
Il a pas l'air très investi dans son métier non plus, ce monsieur. Hein.
Le problème.
Je veux bien qu'on me stigmatise, mais vos équipes ont pas l'air.
Il faut lui dire qu'il peut
lui,
pas.
C'est son activité professionnelle. Hein.
Jack, tu viens de perdre un emploi et une occasion d'ouvrir ta gueule. A tout de suite, on se retrouve. Salut. Et ta dégueu, c'est au Théâtre République à Paris et peut-être dans d'autres villes après.
Moi, ouais, j'espère. Ouais. Je
Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh. On garde le smile. Pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'me chapeau le Goliard, yeah. Et juste mon profile, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une forme dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu faisais les by round. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pied un matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work my me, jour férié. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh. J'pense que c'est les coups pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste là, mais c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alexandre bien heureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Oh ben, oh ben. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh.
France Inter.
Retour dans l'émission Lumière dans la nuit. Édouard Baer, France Inter.
Plus long, Franck de Smet, plus long.
Retour dans l'émission Lumière dans la nuit. Édouard Baer.
Franck de Smet, une voix que beaucoup de gens écoutent nue chez eux. Et on comprend pourquoi, Franck. Franck de Smet qui est... Non, oui, donc je rappelle, hein, qui est au Théâtre Tristan Bernard à Paris pour jouer... Le voyage au bout de la nuit de Céline, mais qui nous fait aussi, qui a eu la gentillesse de nous faire des voix pour le générique dans des conditions financières où tu t'es fait avoir. Je peux te le dire. Alors, Jack, souvent dans la rue, Jack, il y a eu des engueulades. Mathieu Longade pense que vous allez perdre votre boulot, donc votre colère va faire que vous allez le rejoindre. Il cherche à ce qu'on se
foutre dans la merde. Il paraît que j'ai raté quelque chose. Il paraît que j'ai raté truc.
Ah oui, vous avez loupé un freestyle de Mathieu Longade qui avait valu plusieurs exclusions.
Alors qu'en général, je râle parce que on m'entend pas assez.
Vous êtes où, mon vieux? Vous êtes où?
Là, je suis. Alors, j'ai rencontré deux jeunes filles. Je suis dans le 15e arrondissement. Tiens. Et elles étaient en train de parler d'ADN. Mais vraiment, je suis rentré directement dans la conversation. Je vous ai pas demandé votre prénom.
Olivia.
Olivia, alors. Et puis
Anne-Laure.
Anne-Laure, vous étiez sur une conversation ADN.
Oui.
Il y a de plus en plus. Oui.
Ben, on avait envie de faire des petites recherches sur notre ADN, oui. Savoir d'où on venait, quoi.
Olivia et Anne-Laure, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de conversations ADN en ce moment dans la région Île-de-France?
Oui, beaucoup. Les gens ont envie de savoir d'où on vient.
Mais alors, j'ai vu des pubs là-dessus, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a un quart norvégien, un quart esquimau, un quart sion, on s'en fout,
oui,
non?
Oui, mais moi j'ai envie de savoir. Ah non, on s'en fout pas du tout. Mais
qui interprète ce texte? Olivia, c'est rare parce que vous parlez un tout petit peu faux comme un acteur qui... Mais vous êtes merveilleux, je pense que le micro vous intimide.
Olivia... Merci Edouard.
Non, mais c'est un compliment, mais moi-même, moi c'est quand je joue que je joue faux dans la vie, ça va. Olivia et Anne-Laure, cette recherche d'ADN va vous mener à quoi? Être raciste avec
probablement...
vous.
Probablement, oui.
Je me déteste.
Oui, quelque part, à savoir ce qu'on était déjà avant.
Oui, c'est ça. Part. Et puis les pays, ça n'a pas grande importance, la géographie ici.
Moi, je suis une citoyenne du monde, Edouard.
Oh là là, mon Dieu. Mets-le sur ton passeport, tu vas voir comment tu vas passer à la douane. Olivia et Anne-Laure, demain matin, travail, famille ou patrie? Vous faites quoi demain matin?
Non, moi, demain, je ne travaille pas. Enfin, je dessine un petit peu. Je suis illustratrice.
Eh ben, pourquoi un petit peu? Non, quoi?
Je travaille un petit peu. Je veux dire, je fais une petite sieste l'après-midi quand j'en ai assez. Et puis voilà.
Et Anne-Laure, ou c'est peut-être toi?
Anne-Laure, elle travaille. Elle a un vrai travail. Elle travaille dans un tabac rue de Passy.
Très bien. Je rappelle donc, illustratrice, c'est un faux travail. Tabac rue de Passy, c'est le vrai boulot. Salut les filles, bon ADN et tout, bonnes origines. On doit terminer l'émission avant la tôle. Merci, moi aussi, voici mes coordonnées. C'est la fin de l'émission, le dernier plateau, les adieux. Merci d'être passé. Salut à Guirec Soudé, que j'ai appelé Coudé, parce que je me trompe souvent de consonne après 11h du soir. Merci Guirec, ta poule s'appelle Monique.
Oui, Monique.
Ouais. Et Monique, vous repartez sur les mers ensemble?
Oui, j'espère très bientôt.
Bon, salut Monique. C'est le premier invité qui vient avec sa poule et j'espère que ça n'est pas le dernier. Beaucoup de gens la cachent, mais tu as bien fait. Et je rappelle tes deux livres, hein, Guirec et Monique, Le Monde selon eux, Le Monde selon Chez Flammarion et La fabuleuse histoire de Guirec et Monique. J'assure la promotion des invités. Mathieu Tordeur, comment assurer votre promotion?
Il y aura un bouquin qui va sortir, mais je ne sais pas encore.
Alors commencez à l'acheter, je dis aux gens, commencez à l'acheter. Mathieu Tordeur, explorateur, très jeune explorateur et conférencier. Tito, merci. Un salut à Nilda Fernandez, ton pote. Un
salut à Nilda, ouais.
Pat, voilà, il était content parce que tout à coup, quand des gens gueulent pour lui, t'es content, hein. Mathieu Longuette. Mathieu, c'est donc est à dégueuler au République. Une heure et demie avec cette intensité de colère-là?
Pas du tout, tout calme, tout gentil, souriant même, souriant. C'est pour ça qu'il faut payer pour me voir sourire, moi.
Payer pour voir Bonjour Tristesse.
C'est gratuit.
Salut, merci. Et Franck de Smet au théâtre Tristan Bernard. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Ouais. Tiens, présentez votre équipe, Jérôme Chélus. Ah non, il est minuit. L'équipe de Jérôme Chélus au grand complet. Très masculin ce soir. Il n'y a plus du tout. Plus personne.
Il y a Kevin Pelot.
Et merci à
Stéphane Demont, Philippe Thibault.
Merci beaucoup.
Gilles Gaillard.
Périne Malinge, Eugénie Poumaillou. Voilà, merci au public. C'est pas le public, les gens qui sont venus boire un coup ici, au Bel Air. Salut, qui va m'engueuler? Et Alani est où? Alani est caché quelque part. Thank you, Alani! Aka, le nouveau disque d'Alani. Merci, merci. Nous, on reste là. Comment, Jérôme? Mais je sais que c'est le journal de Mariam El-Kurdi, dis donc. Mais à tout de suite, Mariam. À dimanche prochain. Je sais pas où on sera. Salut, merci.